Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1 verset 21. Bonsoir à tous. Marc chapitre 1 verset 21. Jésus et ses disciples se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant été autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? » Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Et nous pouvons dire Amen. Amen. Voilà, nous sommes ici ce soir. Peut-être certains connaissent depuis très longtemps les Saintes Écritures, la Bible. Ils ont fait une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec Jésus. Des choses se sont passées dans leur cœur, etc. Peut-être quelqu'un est nouveau. Peut-être quelqu'un vient ici et découvre la parole de Dieu. Entend pour la première fois parler de Jésus, rentre pour la première fois dans une église, peu importe. Que tous nous puissions réaliser que ce soir, Dieu aurait un message à nous adresser. Dieu voudrait nous parler. Et je n'ai pas la prétention de me prendre pour Dieu, de tout savoir du message de Dieu, mais je veux être son instrument. Et dans la prière, on a entendu que Dieu me bénisse pour transmettre le message avec fidélité. C'est ma prière aussi. Alors soyons attentifs, j'aimerais partager deux choses avec vous. La première, je pourrais la résumer ainsi, c'est qu'il y a un mot qui dit beaucoup et pas tous. On voit qu'il y a un mot beaucoup et un autre mot tous. Et j'aimerais poser cette question, pourquoi beaucoup et pas tous? Et la deuxième question que je poserai, c'est, et après, que fait-on? Premier point, pourquoi pas tous? On a lu que Jésus a pris des disciples, on aurait pu le lire avant, il a choisi 4 disciples, et puis il s'est mis à aller à Capernaum, il avait à cœur d'aller dans cette ville, et en rentrant à Capernaum, il va aller dans la synagogue, à l'église un peu d'autrefois. Il va dans la synagogue et puis il commence à prêcher. Il commence à annoncer un message, l'évangile, message de repentance. Dans Matthieu 4, il est dit, voilà qu'il disait, le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez, croyez, afin d'être sauvés. Jésus rentre dans cette synagogue et commence à parler de l'amour de Dieu. Il commence à dire qu'il est important de se repentir, de demander pardon pour ses fautes, pour ses péchés. Et voilà qu'un homme commence à crier, à parler, parce que cet homme est possédé. Jésus va parler au démon et chasser le démon. Et tout le monde va être impressionné. Sa renommée va se répandre tout autour, dans toute la Galilée. Et puis on va voir que Jésus va aller dans la maison, on l'a lu, dans la maison de Simon et d'André, et voilà que la belle-mère de Simon est malade, elle a de la fièvre. On va appeler Jésus, et Jésus va s'approcher, et là il ne va pas chasser un démon, mais il va guérir tout simplement la belle-mère de Simon, qui est aussi appelée Pierre. Il va faire une guérison. Et au bruit de ce que Jésus a fait, à la renommée qui s'est faite, beaucoup de personnes vont s'approcher de la maison. Et alors que la nuit tombe, beaucoup de monde vont vers la maison de Simon et d'André. Et il nous est dit ce mot que je viens de vous noter, il est dit qu'ils amenèrent, verset 32, on amena tous les malades et tous les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. J'en ai déjà parlé une fois ici, mais je m'attarde encore ce soir sur ce mot. Tout le monde, tous les malades sont venus, tous les possédés sont là. Toute la ville est là devant, on a amené tous les gens qui ont des besoins. On est venu entendre Jésus, on est venu voir Jésus. Parce que Jésus, on a appris qu'il guérissait. Jésus, on a appris qu'il donnait la paix, qu'il chassait tout ce qui était comme oppression dans la vie des gens. Et puis, j'ai remarqué un jour en lisant une fois de plus ce passage, verset 34, qu'il guérit beaucoup de gens. Et qui avaient diverses maladies. Il est dit aussi, il chassa aussi beaucoup de démons. Tous sont venus et seulement beaucoup sont guéris, beaucoup sont chassés. Tous sont là, mais il n'y en a que beaucoup, pas tous. Il n'y a pas le même mot qui est repris. Il n'est pas dit « tous les malades ont été guéris, tous les malades, tous les démons ont été chassés ». Ça a été dit pour d'autres villes. Mais pour cette ville-là, pour Capernaum, il y a eu comme un décalage. Tous sont amenés et seulement beaucoup sont guéris, sont délivrés. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, pourquoi pas tous ? On pourrait se poser, pourquoi les gens ne s'approchent pas de Jésus ? On a vu ce détail, Jésus un jour va dire « je suis la lumière du monde ». Et comme par hasard, c'est quand la nuit tombe que tout le monde s'approche de Jésus. Ceux qui font un peu de pêche savent que les poissons sont attirés par la lumière. Dans la nature, on voit cet effet-là. Quand vous roulez sur la route, les lapins, lorsqu'ils voient les phares, bizarrement, ils sont comme tétanisés, ils ne bougent plus. La lumière les attire. Moi, quand je dors et qu'il y a une petite lumière qui est là, je ne sais pas si ça vous fait cet effet, vous êtes réveillé, vous avez besoin d'ouvrir les yeux, d'aller voir ce que c'est et de cacher. Un jour, un pasteur disait qu'il y avait même une lumière sur son voyant de sa voiture qui était là, la lumière de la ceinture, parce qu'il ne la mettait pas. Et pour cacher la lumière de la ceinture, il a mis un scotch noir, du Chatterton. J'espère que vous ne faites pas pareil. Hein. Un jour, Dieu l'a repris, il a changé. Il a enlevé ce Chatterton, il a dit « Seigneur, je comprends, il faut que je mette la ceinture. » Déjà pour respecter les autorités. Et puis pour prendre soin de ma santé aussi. C'est des choses que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et la lumière, on est un peu attiré, notre regard est là, attiré par la lumière. Et ces gens, comme attirés par une lumière, vont tous à Jésus, tous, mais seulement beaucoup sont guéris, beaucoup sont délivrés. Alors un jour j'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai relevé trois raisons pour lesquelles on pourrait ne pas aller vers Jésus. Pourquoi on ne pourrait pas être guéri ? Pourquoi on ne pourrait pas être délivré ? Pourquoi on ne pourrait pas être sauvé, pardonné de nos péchés ? La première raison, c'est la peur. En entendant le message de l'évangile, Dieu aime le monde, il veut vous sauver, il a envoyé Jésus mourir à la croix pour porter vos péchés et les clouer sur la croix, pour vous en décharger, pour vous pardonner. Et puis, il y a des gens peut-être qui ont peur. Ils disent, oulala, qu'est-ce que c'est ? C'est gratuit, c'est bizarre. Pour une fois, c'est pas payant, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Un amour comme ça, ça n'existe pas. Moi, dans ma vie, j'ai vu que des gens qui aimaient par intérêt. Eh bien oui, Dieu, lui, il aime sans intérêt. Il aime parce qu'il nous veut avec lui. Il nous a créés et il nous veut avec lui. Peut-être quelqu'un a peur, ou j'ai entendu parler de sectes. Autrefois, dans la Bible aussi, il était parlé de sectes. Oh, ils font partie de cette secte, de tout ça. Et puis Dieu, il a dit, continuez votre travail. Moi, je suis avec vous. Et Dieu a confirmé sa parole. Il a montré que ce n'était pas des mensonges, que c'était la vérité. Et Dieu voudrait montrer dans votre vie que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la Bible. Elle est la lettre d'amour de Dieu pour vous. Lisez la Bible, n'ayez pas peur. Ah oui, mais on m'a dit qu'il y avait tout ça. Regardez par vous-même. Regardez par vous-même et vous verrez. Bien sûr, il y a tant de choses qu'on propose. Eh bien, regardez à la Bible. Regardez pas une assemblée, regardez pas un homme. Regardez à Jésus. Regardez à Dieu. Regardez à sa parole. Elle ne vous trahira pas. Si moi je suis faillible, Dieu est infaillible. Si mes courriers, mes notes sont faillibles, les notes du Seigneur sont infaillibles. Et c'est un guide, la parole de Dieu, sur notre chemin, sur le chemin de notre vie. Faisons-lui confiance. La peur. Peut-être quelqu'un était peureux dans cette foule et dit « Ouh, si je m'approche, qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Est-ce qu'il n'y a pas, excusez-moi l'expression, une arnaque derrière ? Un homme qui guérit, un homme qui chasse les démons, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un peut-être a eu peur. Peut-être la deuxième raison, ça serait le doute. Quelqu'un s'est dit, oh oui, c'est beau, je viens, j'aime voir ça, mais pour moi, c'est pas possible. Ma vie est trop sale, ma vie est trop mauvaise, le doute. Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que c'est valable pour moi aussi? Et peut-être des gens passent à côté de la bénédiction de Jésus, la bénédiction de Dieu, du beau message de l'évangile, parce qu'ils doutent. Or, c'est en croyant qu'on est sauvé, en croyant qu'on est béni, pas avec de l'argent, pas avec des efforts, pas avec des mérites, simplement par la foi. Croire la parole de Dieu, croire dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus sur le bois de la croix. Le doute, est-ce que ça va marcher pour moi? Peut-être des gens étaient là, avaient des besoins aussi, étaient malades, étaient possédés, j'en sais rien. Des familles avaient leur enfant possédé, mais avant de le mettre dans les mains de n'importe qui, ils se sont dit on va voir d'abord ce qui se passe. Et ils ont laissé la soirée s'écouler et ils se sont dit demain on verra, plus tard. Et ils n'ont pas saisi l'opportunité qui leur était donnée ce soir-là. Peut-être quelqu'un ici dit, ça fait un moment que je viens, mais on verra toujours demain. La parole de Dieu dit aujourd'hui. N'attends pas demain, aujourd'hui. Ce que ta main peut faire aujourd'hui, fais-le. Ce que ton cœur peut croire aujourd'hui, fais-le. Crois, donne ta vie au Seigneur Jésus. Demain, peut-être, il sera trop tard. Dans Jacques chapitre 4, il me semble verset 14, il est dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Ce qu'il en sera demain. Le doute. Et troisième raison, peut-être l'orgueil. Peut-être quelqu'un dit non, moi j'ai besoin de personne. Et peut-être qu'il y avait un homme malade dans cette foule qui était devant la maison, quelqu'un peêtre qui était oppressé par ses démons, entre guillemets, par toutes sortes de choses, dans des situations difficiles, sans espoir. Et il s'est dit, moi j'ai besoin de personne. Je veux surtout pas aller vers Jésus. Moi je veux pas qu'on sache que je suis malade. Peut-être ces personnes cachaient sa maladie, cachaient son besoin dans son cœur. Et son orgueil l'empêchait d'être au bénéfice de l'amour de Dieu et de la grâce de Jésus ce soir-là. Et comme ce soir-là, ce soir, Jésus voudrait vous bénir. Que ne vous laissez pas priver de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu à cause de votre orgueil. Moi, j'ai besoin de personne. On a tous besoin de quelqu'un. On a tous besoin. Tant qu'on a la santé, ça va, on peut dire, moi, j'ai besoin de personne. Mais le jour où, paf, une maladie vient, beaucoup de personnes crient à Jésus, crient à Dieu, « Oh, pourquoi il m'arrive ça ?» Mais ils réalisent là qu'ils ont besoin de quelqu'un pour venir les sauver. Et certains, leur orgueil est tellement fort qu'il les prive de tourner leur regard avec humilité vers Dieu et de lui demander du secours. Qu'il n'en soit pas ainsi pour chacun d'entre nous, parce que Dieu nous aime. Il est dit qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Que nous puissions être humbles dans notre cœur, reconnaître notre besoin d'être secourus. Face au péché, personne ne peut dire Je réglerai ça avec Dieu, je lui dirai en face ce que je pense. La bouche dit que toute bouche sera fermée. Et si notre bouche s'ouvrira, ce sera pour confesser le nom de Jésus. Et c'est tout. Tout genou fléchira devant Dieu. Regardons ce qui se passe pour tous ceux qui ont attendu. Pour tous ceux qui n'étaient pas dans ces beaucoup. Il nous est dit juste après que vers le matin, verset 35, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sans rien dire à personne, et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus aimait prier. Il se met à l'écart et il va pour prier. Et ses disciples, ils se mettent à sa recherche. Et quand ils le trouvent, qu'est-ce qu'ils lui disent? Quelqu'un peut-il m'aider? Verset 30, 37. J'entends pas. Tous te cherchent, ça y est! Même ceux qui n'avaient pas profité de l'occasion qui leur était donnée, là, ça y est, ils sont là, tous te cherchent. La nuit porte conseil. Peut-être que pendant la nuit, ils ont réfléchi, pourquoi j'y suis pas allé hier soir? Ah mince, demain matin, à la première heure, je vais me lever, quand le soleil va se lever, je vais me lever et je vais aller devant la maison de Simon-Pierre et je vais aller vers Jésus pour régler mon problème. Voilà, Jésus était parti. C'était trop tard. C'était trop tard pour eux, pour être touchés par Jésus. Pour être guéri par Jésus, pour être conseillé peut-être par Jésus, pour être sauvé, pour être délivré par le Seigneur Jésus. C'était trop tard pour eux. Et le premier message que j'aimerais relever aujourd'hui, c'est ne laisse pas passer l'opportunité qui t'est donnée aujourd'hui de régler ta vie avec le Seigneur, de tourner tes regards vers lui. Le plus grand des besoins qu'a l'homme, au-delà de la guérison, au-delà d'une délivrance ou d'un souci qui l'oppresse, c'est le besoin d'être pardonné et sauvé, d'avoir son âme qui est sûre d'aller, son esprit qui est sûr d'aller au ciel, au paradis. d'avoir réglé l'affaire du péché face à Dieu en acceptant le sacrifice de Jésus valant pour lui, pour ta propre vie. Dire, oh là là, mais moi, oui, je sais que j'ai péché. Qui n'a jamais menti? On a tous au moins menti. On a tous été salis par le péché. Notre place dans le ciel, on ne la mérite pas. La pureté du ciel, on ne la mérite pas. Mais quelqu'un a payé pour nous. Parce que Dieu nous aime, il a envoyé son Fils. Afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il n'aille pas en enfer, mais qu'il aille au ciel. Alors acceptez, tout simplement. C'est le premier des appels. Pourquoi Jésus était là ce jour-là? Dans Matthieu chapitre 4, verset 12, il est dit, je vous le lis, « Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. » C'est le même récit, mais raconté par une autre personne qui l'a vu. « Situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, et la lumière s'est levée. » Il fallait que Jésus aille annoncer ce message. Il fallait que Jésus, la lumière du monde, vienne dans ce village pour annoncer le beau message. Il y a une solution pour être pardonné des péchés. Croyez en moi. Et juste après, Jésus allait donner sa vie pour chacune de ces personnes et chacun d'entre nous ce soir. Jésus devait donner sa vie, mais Jésus devait annoncer le message. Jésus devait annoncer qu'il y avait un espoir et qu'il fallait se repentir. Se repentir, eh bien, c'est changer de mentalité. C'est un mot grec qui est métanoïa, qui veut dire changer de mentalité. Avant, je vivais pour moi-même en égoïste. Aujourd'hui, je réalise que j'ai été créé pour un but, plaire à Dieu. Alors je vais changer de mentalité. Avant, ça ne me faisait rien de regarder un film violent. Aujourd'hui, je vais changer de chaîne si je tombe sur quelque chose de violent. Hier, ça ne me faisait rien de regarder quelque chose de sensuel, d'érotique, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, je ne vais plus me souiller par ces choses. Je vais garder mon âme pure parce que j'ai un sauveur qui m'a créé pour quelque chose de pur. Et etc. Et je pourrais multiplier les exemples. Hier, je pensais que changer de partenaire, c'était rien. Aujourd'hui, je comprends que c'est un adultère. Et je demande à Dieu de m'aider à poser mes yeux sur une femme, un homme, et etc., etc. Autrefois, je ne passais pas du temps devant Dieu. Je ne parlais même pas à Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris que Dieu m'a créé pour avoir une relation intime avec moi et que je lui parle tous les jours, etc., etc. Repentance inclut aussi le fait d'abandonner ses péchés, de demander pardon pour ses péchés. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. C'est ça la repentance. Et je souhaite les abandonner. Délivre-moi du mal. Délivre-moi de mes péchés. Et le Seigneur Jésus va le faire puisque c'est son plan. Il l'a dit. Et ce qu'il dit, il le fait. Ne tardez pas à aller vers Jésus. N'ayez pas peur. Ne doutez pas. Et surtout, ne laissez pas votre orgueil vous priver de sa grâce, de sa miséricorde et de son amour. Amen. Et deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, deuxième chose qui m'a interpellé et qui a fait que j'ai repris ce texte avec vous ce soir, c'est que j'ai imaginé un petit peu ces gens. Il nous est dit que dans la prophétie, ces gens ont vu une lumière se lever vers eux, eux qui étaient plongés dans les ténèbres. D'un coup, il y a eu de l'espoir, une lueur d'espoir qui s'est levée dans leur vie. Eux qui étaient peut-être sans espoir à cause de leur maladie, malades à la mort. Eux qui avaient, à un moment, on voit dans la parole de Dieu, une famille qui a un fils, un couple qui a un fils, qui est possédé, qui se jetait tout le temps dans le feu, qui se meurtrissait avec des cailloux, etc. On voit une famille dans le désespoir et d'un coup Jésus arrive et il chasse les démons. Il rend son bon sens aux gens. Une lueur d'espoir se lève, quelque chose de nouveau, ça y est, il y a enfin de l'espoir, on a un sauveur, Jésus. Et puis voilà que le matin, avant que le soleil se lève, Jésus part. Les disciples vont lui dire, mais tous te cherchent, tous se cherchent. Et lui dit, oui, oui, mais il y en a d'autres. Et il ne revient pas sur ses pas. Il repart. Et il va prêcher à d'autres personnes. Et j'imagine un petit peu ces gens, ils viennent d'avoir un nouvel espoir, ils viennent d'avoir une nouvelle solution, un sauveur, quelqu'un qui est venu pour les délivrer, pour les guérir. Ah, on le voudrait bien toujours avec nous, Jésus. Comme ça, chaque maladie va pouvoir nous guérir. C'est le meilleur des médicaments, Jésus. Hein? Et puis on est là et on veut et on veut. Et puis d'un coup, Jésus part. Et je me suis dit, est-ce que Dieu aurait trahi ces personnes? Il leur donne un peu de l'espoir. Et puis tiens, je vous l'enlève. Est-ce que Dieu est quelqu'un qui nargue les gens? Est-ce que Dieu est quelqu'un qui veut faire du mal comme ça, donner de l'espoir puis l'ôter? Est-ce que c'est ça le pensée de Dieu? Puis je me suis dit non. J'ai médité vraiment, j'ai demandé au Seigneur. Et puis je me suis dit que Dieu ne change pas. Dieu n'est pas mauvais. Dieu, il ne nargue pas les gens. Dieu n'a pas de mauvais plan pour les gens. Il dit, j'ai des projets de paix, de bonheur pour toi, et non de malheur, dans Jérémie. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Et moi, j'ai pensé à quelque chose. Quelque chose s'est imposé sur mon cœur. Il dit, non, Dieu n'est pas comme ça. Si Jésus, en personne, physiquement, est parti, son message demeurait. Des gens l'avaient entendu. Et rien n'empêchait quelqu'un de répéter ce beau message de l'Évangile, de le prendre pour soi, de le vivre et de devenir à son tour un ouvrier dans la moisson, un proclamateur de l'Évangile. Rien n'empêchait quelqu'un qui avait entendu Jésus parler de saisir les paroles de Jésus et de dire « Voilà ce que Jésus a dit. Repentez-vous et on peut être sauvé. Si on se repent, on est pardonné de nos péchés. » Rien n'empêchait quelqu'un de dire « Oui, mais il a dit que si on croyait en lui, on pouvait être guéri. » Et regardez, d'ailleurs, les textes anciens nous disaient ceci. Et puis d'aller dans la synagogue dire, dites-nous, qu'est-ce qu'il est dit dans Isaïe? Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit là? Qu'est-ce qu'il est dit sur le Messie? Dites-nous, parlez-nous. Et puis dans Isaïe, ils auraient vu, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, mais je suis l'Éternel qui te guérit. Le Jésus qui est venu, il nous a annoncé un beau message. Et voilà, celui qui croit en lui, il est guéri. La preuve, il l'a fait, il nous l'a montré. Et ça continue. Et puis on va prier ensemble les uns pour les autres. Et on va être guéri. Jésus n'est plus là, il a dû parler à d'autres. Mais nous, on va continuer. On va continuer. Nous-mêmes, on va se lever. Qui a empêché ces gens de se lever et de répéter ce message? Un jour, Jésus a délivré un démoniaque. Et le démoniaque a voulu le suivre. Une fois revenu dans son bon sens, lui qui vivait tout nu, il est habillé. Lui qui était fou, il revient dans son bon sens. Et puis il dit à Jésus, viens, je vais te suivre. Jésus lui dit, non, 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 tu vas retourner chez toi. Et tu vas raconter tout ce que j'ai fait. Parce que Jésus, s'il agit dans un cœur, c'est pour que ce cœur devienne témoin et qu'il parle à son tour. Et là maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux qui connaissent le Seigneur, à chacun d'entre nous. Vous voyez où je veux en venir un petit peu? Vous voyez ou pas? Vous comprenez ma pensée? On a entendu que des frères nous ont visités en France, Monsieur Scott, Monsieur Nicole. On parle souvent de Monsieur Roux et on parle de toutes sortes de ministères qui ont marqué leur temps. Gloire à Dieu pour ces ministères. Et on parle souvent d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, des personnes. On lit des livres sur ces personnes et on regarde et on médite leur vie, etc. Et puis on dit, Seigneur, moi aussi j'ai fait cette prière. Seigneur, s'il te plaît, envoie-nous des ministères. Envoie-nous des hommes avec plein de dons. Envoie-nous des gens avec pleine capacité, des gens qui seront des hommes, qui seront vraiment solides et qui feront des miracles, etc. Prenons avec moi la fin de l'évangile de Marc. Marc, chapitre 16, et à partir du verset 15. Jésus a accompli ce qu'il avait promis de faire, mourir à la croix pour nous, il est ressuscité, et voilà ce qu'il dit. Verset 15. Du chapitre 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront l'élite de mon peuple. C'est ça? C'est quoi qui est écrit? Ceux qui auront cru. Ah, mais ceux qui auront vraiment, vraiment, vraiment cru, qui auront reçu plein de dons, non? Non? C'est qui ceux qui auront cru? Tous ceux qui ont cru en Jésus, qui l'ont reçu comme sauveur, mais aussi qui l'ont reçu comme Seigneur, comme maître de leur vie, et qui vivent pour lui. Qui se sont engagés dans les eaux du baptême, puisque le baptême est un engagement, et qui ont dit, moi maintenant je ne veux plus vivre pour moi-même, je veux vivre pour toi. Alors regardez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles, pardon, qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et ils s'assirent à la droite de Dieu, ils s'en allèrent prêcher partout, donc ils obéissent. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Et merci Seigneur pour les ministères tels que M. Roux, tels que M. Scott, tels que toutes ces personnes. Gloire à Dieu, c'est pas vrai? Franchement, heureusement qu'ils sont venus. Ils nous ont réveillés un peu, hein? Ils nous ont montré que la parole de Dieu, elle n'était pas que en 2D mais en relief, qu'elle était vivante et qu'elle pouvait s'accomplir encore de notre temps, que les langues dont il est parlé, c'était encore pour notre temps. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont manifestées sous leur ministère, entre guillemets, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas besoin d'élite. Il n'y a pas d'élite dans le ciel. Il n'y a pas d'élite dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'élite. Et le Seigneur, s'il nous dit de prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson, je ne crois pas que c'est l'élite qui va dans la moisson. Ce n'est pas les rois, ce n'est pas les seigneurs, ce n'est pas ceux qui sont peut-être plus dignes. C'est qui va dans les moissons? Couper le blé, ramasser le blé? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Les serviteurs, les ouvriers, je veux dire, les gens comme vous et moi, hein, en fait. Les serviteurs, tout simplement. Les serviteurs, les servantes, les esclaves, les doulos, comme le dit Paul, qu'on a interprété comme serviteur mais qui veut dire esclave, les doulos. Il dit, moi je suis un doulos, je suis un esclave. Et on est tous au même rang. Et qu'est-ce qu'il faut alors pour vivre ces choses? Il faut croire, comme ça a été dit. Et puis il est dit aussi qu'il faut croire. Et puis aussi encore que croire. Il faut avoir une foi qui nous conduit à l'obéissance, bien sûr, une foi vivante. Parce que dire j'ai la foi, je crois, mais une foi qui nous conduit pas aux œuvres, elle sert à rien. La personne qui dit moi je crois en Jésus, moi j'ai ma religion, mais bon, l'église, je veux pas y aller. Le Seigneur, il demande quand même d'avoir une communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Celui qui dit moi je crois en Dieu, mais j'ai tellement lu la Bible que maintenant j'ai plus besoin de la lire, je la connais par cœur. Je crois qu'il fait fausse route, puisque c'est en méditant la parole qu'on va découvrir ses trésors et ses secrets. Et puis, etc. Celui qui dit moi je crois en Jésus, mais qui ment, et à qui ça fait rien, il n'a pas la bonne foi, il a une foi qui le trompe. C'est pas la foi de Jésus. Le diable a une foi. Vous savez que le diable croit aussi? Les démons croient et ils tremblent. Eux, ils ont des œuvres, ils tremblent. Mais nous ne voulons pas avoir l'œuvre de trembler. La crainte de Dieu, ce n'est pas trembler devant Dieu. La crainte de Dieu, c'est un saint respect. Et si quelquefois on en vient à trembler, c'est bon signe. C'est qu'on est sensible à sa sainteté, à son autorité, à sa grandeur, à sa puissance. Mais Dieu, qui nous voit trembler, vient nous voir et nous rassure dans son amour et dans sa douceur. Oh oui, il ne tolérera pas qu'on reste dans notre péché. Il va nous le dire, il va nous avertir dans son amour, avec douceur, avec insistance. Mais au bout d'un moment, il va dire « Je suis obligé de me retirer de toi. » Parce qu'on attriste le Saint-Esprit si on continue dans ses mauvaises œuvres. Mais si alors on se repent, ben c'est comme au début, le Seigneur se réjouit, il a sauvé quelqu'un qui est resté dans ses voies, et puis on continue à aller de l'avant. Il n'y a pas d'élite. C'est pas les rois, les seigneurs, les gens haut placés qui vont dans les champs. C'est tous les enfants de Dieu. Vous savez qu'autrefois, un enfant était considéré comme un esclave au même rang. Et les enfants allaient dans les champs. Et nous sommes enfants de Dieu, tous au même rang. Par contre, je crois que Dieu donne une place à chacun. Et s'il y a quelqu'un, il lui dit, moi je te veux évangéliste, aller dans le monde. C'est comme Philippe, il était un frère, Dieu l'a appelé, il a eu ce désir dans son cœur d'être un témoin en Samarie, il a parlé et il y a eu un réveil, gloire à Dieu. Comme quoi Dieu peut utiliser tout le monde. J'ai fait une liste des personnes un peu que Dieu a utilisées dans la parole de Dieu. Et quand je vois Noé, par exemple, Noé, cet homme, ce prédicateur de la justice, la première chose qu'il a fait après avoir offert un sacrifice à Dieu, qui peut me dire ce que c'est? La parole de Dieu nous rapporte un fait qui n'est pas glorieux. Qu'est-ce qu'il a fait Noé? Il a planté des vignes, il a fait du bon vin et il s'est saoulé. Vous auriez choisi un homme comme ça au point qu'il y a eu catastrophe après? Abraham, on en a parlé dimanche. Ah, c'est sûr qu'au début il a bien parti, mais en cours de route, il a fait des erreurs, il a menti. À deux reprises, il a recommencé avec son épouse à dire que c'est sa sœur, ce qui était une demi-vérité. À dire que c'est sa sœur alors que c'était sa femme, que des choses comme ça. Vous l'aurez choisi, vous? Moi, je ne sais pas. Si vous étiez Dieu, vous auriez cherché quelqu'un de parfait? Ben non. C'est pas ce que Dieu a fait. Moïse, il était bègue. On pense qu'il était bègue. Il avait du mal à parler. Il ne voulait pas parler. C'est son frère qui a dû parler à sa place. Dieu a dû se mettre en colère, il nous a dit. Mais pourtant, Dieu a choisi Moïse. Moïse, qui est un type de Christ quand même, c'est pas n'importe qui a participé à l'ouverture de la mer Rouge. Gédéon, le plus petit, dans la plus petite famille, qui avait peur, qui planquait vite vite ce qu'il pouvait avant la venue de Madian. Ruth, qui était une étrangère. David, qui n'était qu'un berger et qui a commis des bêtises. Salomon, qui était le fils de Bathsheba, la femme que David, avec qui David avait commis adultère. Il était le deuxième fils qu'ils ont eu, le premier ayant trépassé. Néhémie, qui était un échanson, prisonnier, en tout cas esclave, au service d'un étranger. Daniel, la même chose, il était esclave. Les apôtres, qui étaient sans instruction. Philippe, qui était juste un frère qui avait par contre un bon témoignage. On voit qui Paul, c'est un persécuteur. Vous auriez choisi Paul, vous? C'était le pire. Lui, il faut. Moi, je crois que j'aurais été Dieu. Peut-être j'aurais dit, il faut lui enlever le souffle de vie. Comme ça, il ne fait plus de problème. Et pourtant, Dieu l'a utilisé pour être un témoin. Timothée, qui était timide. Et si on voulait continuer la liste, hein, Jean, qui était qu'un jeune homme, quand Jésus l'a choisi. On voit que Dieu n'a pas utilisé l'élite du monde, même aux yeux des hommes. Il dit dans un endroit, je prends les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Je prends les choses folles pour confondre les sages du monde. Mais quand on est fou, aux yeux de Dieu, c'est bon signe. Quand c'est sa folie à lui, ça va. Quand c'est la folie du monde, quand c'est la sagesse du monde plutôt, là il faut s'inquiéter. Quand on est sage aux yeux du monde, inquiétons-nous. J'aimerais vous laisser avec deux témoignages. Vous avez compris où je veux en venir? Tout simple. Dieu ne va pas envoyer un autre élite, peut-être il peut le faire, quelqu'un en tout cas, pas une élite, puisque ça n'existe pas, je viens de le dire, mais quelqu'un avec un ministère particulier, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre ça. Ce qu'il nous faut, c'est saisir le message qu'on a reçu, le faire nôtre, le croire, le vivre et le partager autour de nous. Chacun, avec notre capacité, ce qu'on a reçu du Seigneur, avec le secours de Dieu, avec nos moyens à nous, qui sont à nous, voilà. Mais Dieu va transcender tout ça. Il va mettre son esprit et avec l'onction, ça va être efficace. Parce que de toute façon, même les plus belles techniques sans onction, ça ne fait rien du tout. Donc la chose qu'on a à faire, c'est croire, chercher la présence de Dieu, passer du temps devant sa face, être rempli du Saint-Esprit, et puis le Seigneur, il va faire le reste. Mais n'attendons pas un autre grand ministère. N'attendons pas un pasteur super génial. Avec moi, vous seriez extrêmement travaillé dans votre patience, peut-être. Monsieur Gau, regardez, Monsieur Gau est mis un peu pour un temps à l'écart. Il y a Michael qui est là pour relever la donne. Mais en attendant, vous comprenez que Dieu nous demande à chacun, nous qui avons cru, de prendre notre place pour continuer ses œuvres. Vous avez vu? Il confirmait sa parole et il travaillait avec eux, le Seigneur Jésus. D'où? Du ciel. Sur la terre par son esprit. En nous. Méditons vraiment ces choses. Je vous laisse avec deux témoignages. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un Canadien, un jeune Canadien. Il était membre dans une assemblée, il ne brillait pas beaucoup. On n'aurait jamais parié sur lui. Il venait, il s'asseyait au fond, il arrivait en retard, il repartait avant la fin. Dès que là, vous savez, à la fin on prie, et il y a des gens qui, même au moment de prier, pour eux ça veut dire c'est partir et ils partent. Et lui, il était de ce genre-là, à faire ça, il n'attendait même pas la fin. Il partait. Et puis un jour, il s'est retrouvé dans une situation toujours très timide, jamais un mot. Et puis, il avait des amis. Ils ne partageaient pas leurs mauvaises actions, mais ils traînaient souvent avec eux. Et un jour, la police est venue et a embarqué tout le groupe. Et il s'est retrouvé embarqué avec le groupe. Et il est arrivé en prison. Et une affaire qui aurait dû, pour lui, se terminer très très vite, s'est prolongée parce que le groupe était impliqué dans quelque chose de très grave. Il y avait plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, à cause de ce qu'ils avaient fait. Et lui, il a été mis avec. On ne sait pas comment toute l'église s'est mise à prier, à jeûner. Il a été mis avec le groupe et il a pris dans les plus petites peines, mais quelques mois quand même. Et puis tout le monde a voulu prier, se demander ce qui se passait, il ne comprenait pas. Et il s'est dit, ça y est, c'est fini, lui le Seigneur, il va mettre une croix dessus. Et puis finalement, au bout de quelques jours, les parents ont réussi à voir leur enfant, à les rendre visite, et quand ils sont allés le voir, l'enfant disait, j'ai trouvé dans ma cellule une Bible. J'ai commencé à la lire. Et quand on m'a vu lire ma Bible, il y a d'autres prisonniers qui m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Et puis je leur ai dit, je lis la Bible. Ah bon, tu la comprends toi? Oui. Et il a pu rendre son témoignage, rien d'exceptionnel. Il avait donné son cœur à Jésus. Et puis les gars ont commencé à lui parler, les autres prisonniers à lui parler, lui partager leur douleur, etc. Lui parler, lui demander conseil, etc. Lui, il n'avait qu'une chose à dire, on va prier. Et il priait, et les gars pleuraient, et ils donnaient leur cœur à Jésus. Et il est resté plusieurs mois dans cette prison, et dans cette prison, plusieurs personnes ont donné leur cœur à Jésus, et aujourd'hui, les prisonniers sont dans l'église. Ils sont venus. Qui aurait parié sur ce jeune homme ? Personne. Et pourtant, Dieu a vu. Il l'a pris pour l'emmener en prison. On ne veut pas aller en prison, mais qui sait, le Seigneur, il connaît ses voies. Joseph est allé en prison, parce qu'il fallait qu'il passe par là. C'était comme ça qu'il allait arriver au poste le plus haut pour après bénir le peuple d'Israël. Dieu sait ce qu'il fait et il veut utiliser chacun d'entre nous. Et si nous, avec nos yeux humains, on ne parierait pas sur vous, sachez que le Seigneur, lui, il vous regarde et il dit « Je veux t'utiliser ». À chacun d'entre nous qui avons cru, chacun d'entre nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous devons être utiles dans les mains du Seigneur. En tout cas, comprenons-le, c'est le plan de Dieu merveilleux. Et puis le deuxième témoignage, quelqu'un peut-être dira « Mais moi j'ai essayé, ça n'a rien donné, ça n'a pas porté de fruit. J'ai essayé, je suis arrivé à rien. » J'aimerais vous dire ce témoignage. Un jour, un couple dans une assemblée, a eu à cœur d'aller en mission. Et vraiment, ils sentaient une direction de Dieu, ils étaient convaincus qu'il fallait devenir des pionniers dans un endroit où il n'y avait pas encore d'évangile qui avait été prêché. Un endroit où on n'avait pas d'église, un endroit en Afrique, il me semble, un endroit vraiment perdu où personne n'allait. Et puis ils se sont mis à partir, ils ont prié longuement, et puis un jour ça a pu se faire, ils sont partis en couple avec leur petit enfant, avec le premier enfant. Et ils se sont mis installés au début dans une équipe de missionnaires qui était déjà en place. Ils ont commencé à apprendre la langue, faire ces choses-là, et ils ont eu un deuxième enfant, un bébé. Et puis ils ont continué, au bout d'un moment ils ont dit on va aller dans les villages, ils connaissaient assez le pays, ils s'étaient acclimatés avec tout ce pays, et ils ont dit allez on va aller plus loin dans la brousse, dans la jungle, j'en sais rien, et ils ont commencé à partir. Ils ont traversé les forêts, ils sont allés au premier village, et au premier village qu'ils ont rencontré, ils ont commencé à vouloir prêcher le nom de Jésus, ils parlaient, etc. Mais il y avait une langue un peu spéciale, chaque tribu a un peu sa langue, et ils n'arrivaient pas à se faire comprendre bien, mais le village s'est fermé complètement, hermétique. Impossible de prêcher l'évangile. Impossible d'annoncer le nom de Jésus. Les gens n'ont pas voulu, ils avaient leur Dieu, ils ne voulaient pas. Ils se sont dit, c'est pas grave, on va continuer. C'est Dieu qui nous envoie. Ils sont partis, ils ont commencé à faire encore quelques routes plus loin. Et puis ils sont arrivés sur un autre village. Et là, ils ont commencé à vouloir parler du Seigneur Jésus, pareil. Et ils ont voulu, ça n'a pas donné. Ils sont allés encore plus loin. Et là, ils n'arrivaient pas du tout à se faire comprendre. Mais ils ont dit, Seigneur, on est allés. Il n'y a rien d'autre qui s'ouvre, on va faire une cabane ici, on va se faire une maison là, on va rester, et on va apprendre la langue, et on va leur parler, on croit que c'est toi qui nous as envoyé. Ils ont persisté, et ils ont été dans ce petit village à côté, en tout cas, puisqu'ils n'ont pas été acceptés au départ, et ils se sont mis, ils ont commencé à prier, à jeûner, et puis avec ce petit enfant qui était là, le petit enfant a grandi un an et demi, deux ans, et puis la femme est redevenue enceinte. Et pendant tout ce temps, il n'y a rien eu à faire. Ils n'arrivaient pas à rentrer dans le pays, dans le village hermétique. Il n'y avait qu'un petit enfant qui se quittait le village de temps en temps, qui allait dans leur maison et qui restait devant la femme. Et la femme, elle lui parlait de Jésus, elle ne savait même pas s'il comprenait. Elle ne savait même pas. Elle lui parlait. Et lui, il restait comme ça. Et puis après, il repartait. Et ça a duré des mois. Et puis, alors qu'elle a accouché d'un bébé, et puis elle a attrapé une infection. Elle est tombée malade. Rien n'avançait dans le village. Ils se sont dit, si on veut rentrer avec la maladie, elle va y rester. Donc ils ont patienté, et la femme du missionnaire, la femme de cet homme, est morte. Et ce mari a commencé à prendre sa femme à bout de bras, à l'amener comme ça derrière le cabane dans la forêt. Il a creusé un trou, il l'a mis là, il l'a enterré, et puis il a commencé à parler à Dieu dans son cœur et à dire, mais pourquoi tu nous as envoyés là? Et il ne s'est rien passé. Pas un village, rien n'a pu avancer. On n'a rien fait, on n'a rien pu faire. Mon épouse est morte. Tu vois, maintenant je me retrouve avec deux enfants, trois enfants maintenant. Comment je fais? Et il était en colère. Et il a dit, puisque c'est comme ça, Dieu, je t'abandonne, je te renie, je ne veux plus de toi. Et il a commencé à repartir avec ses enfants. Il a traversé toute la forêt, il est arrivé jusqu'au camp missionnaire, il a parlé au missionnaire, il a dit, écoutez, je ne peux pas garder ces trois enfants, je laisse le plus jeune, je vous laisse la plus jeune je crois, je vous la laisse et vous allez l'élever vous parce que moi je peux plus. Voilà ce qui s'est passé, ta 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 ta. Dieu, il nous a menti, on a été trahis, etc. Et cet homme est parti fâché avec ses deux premiers enfants. Et il est reparti en Europe, je ne sais plus dans quel pays exactement, c'est pas en France. Et il a fait sa vie, il a repris le cours de sa vie. Les années ont passé. La petite fille, c'était une petite fille, la petite fille dans le camp missionnaire a grandi, les années ont passé. Et puis, petite, elle avait toujours ce truc, c'est d'imaginer qu'elle avait un grand frère, une autre grande sœur, très loin, avec ses parents, et puis elle parlait parfois à ses parents, et puis elle parlait à Jésus, elle disait, prends soin de mon papa, prends soin de mes frères, de mon frère, de ma sœur. Et puis elle grandissait comme ça, elle savait qu'elle avait une famille. On lui avait dit. Et puis plus elle a grandi, elle est devenue une adolescente, puis une femme. Elle a épousé un homme dans la mission, ils ont commencé à travailler pour le Seigneur, puis un jour, dans son cœur, elle a eu vraiment le désir de retrouver son père. Plus jamais il y avait une nouvelle. Elle a eu le désir de retrouver son frère et sa sœur. Et elle a quitté le champ missionnaire et elle est retournée dans le pays où on lui avait dit qu'apparemment son père pourrait être. Et puis elle a cherché à droite, à gauche, et en même temps elle a pu y retourner parce qu'il y avait un séminaire, une réunion missionnaire, un événement missionnaire, un exposé sur le travail de la mission. Et elle était envoyée, entre autres, pour ce travail-là aussi. Et puis elle a commencé à faire des recherches à droite, à gauche, rien ne faisait, elle ne trouvait pas la trace de son père. Ni de son frère, ni de sa sœur. Et puis, alors qu'elle parlait pendant ce séminaire, elle parlait du travail, elle a dit qu'elle avait grandi, elle a raconté son témoignage, et d'un coup, il y a un homme dans la salle qui s'est levé et qui a dit, « Excusez-moi, je suis votre frère. Je suis votre frère. » Et puis elle a dit, oh là là, mais c'est merveilleux, mais ils ont commencé à parler, mais est-ce que vous êtes sûr, tout ça, ils ont commencé à partager, c'est exactement, elle a retrouvé son frère dans ce séminaire. Elle dit, mais alors où il est papa? Il a dit, si tu savais, il est dans un état incroyable. Ah bon, je veux le voir, il faut que je lui raconte quelque chose. Il a dit, d'accord, écoute, on va y aller, je crois aux dernières nouvelles, il était dans tel appartement, dans telle ville. Et commence à aller. Et ils arrivent devant un bâtiment tout délabré, tout sale. Ils commencent à rentrer dans le bâtiment. Ils montent à l'étage. Plus ils montaient, plus ils sentaient une odeur puante. Et ils arrivent devant l'appartement. Et là, la porte, ils toquent, personne qui ouvre. Ils ouvrent la porte. Et ils voient le papa qui était là en train de gisait au milieu des bouteilles, alcoolisé, quelque chose d'incroyable. Il était devenu alcoolique et il était là en train de cuver son vin. Il était dans un fauteuil comme ça. Quelque chose d'atroce. Puis elle s'est approchée et le frère a dit, voilà. Ce qui s'est passé avec papa, c'est que quand il est rentré au pays, il a repris ses affaires. C'était un homme d'affaires, il a repris. Il a gagné beaucoup d'argent, mais il y avait une amertume dans son cœur. À la maison, ça a été horrible, horrible, au point que notre sœur, elle est partie loin. Elle a coupé les ponts avec papa. Et lui, il a gardé son amertume comme ça. Il s'est remarié, ça n'a pas marché. Tout a été brisé. Et il est tombé dans l'alcool. Il a perdu son emploi, il a tout perdu. Et aujourd'hui, le voilà. Ils ont entendu, elle a pleuré au pied de son papa. Elle a pleuré. Et puis elle a dit, voilà, quand il s'est réveillé un petit peu, elle dit, papa, je suis ta fille. Comment ça? Je suis ta fille, celle que tu as laissée là-bas. Je t'aime, papa, et je veux te dire quelque chose. Est-ce que tu te souviens de ce petit garçon à qui maman a parlé? Est-ce que tu te souviens de ce jeune garçon? Oui, tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Oui, et qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, ce jeune garçon, il a grandi. Et dans son village, il a parlé du Seigneur Jésus à tout le monde. Tout son village s'est converti. Et aujourd'hui, il est devenu pasteur. Il a mis en place des églises et aujourd'hui, il sert le Seigneur comme ça. Papa, vous n'avez pas fait ce voyage pour rien. Papa, cette mission, elle n'a pas été pour rien. Maman n'est pas morte pour rien. Même si tu ne l'as pas vu sur le moment, ça a donné son effet. Le temps a passé, mais aujourd'hui, je peux te dire que ça a payé. Dieu avait prévu quelque chose. Alors papa, reviens à Jésus parce que Dieu t'aime, parce qu'il te veut avec lui, etc. Et cet homme est revenu au Seigneur. À cause de son alcoolisme, il était tombé malade et il est mort de son alcoolisme et il est mort sauvé avec la paix de Dieu. Et puis, ils ont pu retrouver cette sœur qui avait rejeté Dieu en bloc avec et ils ont pu lui reparler. Cette sœur a donné son cœur au Seigneur. Et ils ont continué à servir le Seigneur. Et ce que je voudrais qu'on retienne ce soir, qu'on retienne, c'est qu'importe si on a vu ou pas le fruit de notre travail, qu'importe si on a essayé une fois ou mille fois, l'important, c'est d'obéir au Seigneur. Et le Seigneur, ce soir, voudrait nous rappeler que si lui, il est remonté au ciel, il nous a laissé à chacun, nous qui croyons, pour faire son œuvre, pour être des ouvriers dans sa moisson. Il n'a pas demandé une élite. Il ne veut pas qu'on soit des gens bourrés de dons pour le servir. Ça n'existe pas. Il veut des gens qui soient en relation avec lui pour qu'au moment où il nous dira « prie pour telle personne », il puisse guérir la personne, il puisse chasser le démon qui est là, il puisse consoler, il puisse sauver, qu'il puisse nous utiliser quand on aura un message, un témoignage à donner. On va ouvrir notre bouche et avec nos petits mots, on va dire ce qu'on pourra. Mais le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas fou et il veut nous utiliser à chacun. Ne nous laissons pas décourager. Ne regardons pas à notre petitesse, chacun, moi le premier, si je regardais à moi-même, je n'irai nulle part, je ne parlerai pas du tout, encore moins ce soir. Mais le Seigneur, il nous dit à chacun, compte pas sur toi, compte sur moi. Cherche-moi à m'obéir à moi, cherche à faire ma volonté. Toi, je t'emmène au ciel, suis-moi, suis-moi. Et à chacun, nous qui avons cru, le Seigneur nous dit, il y en a d'autres qui n'ont pas encore cru. Parle, parle. Moi, je vais donner mon esprit derrière pour qu'il confirme ma parole. Fais ta part, la mienne, t'inquiète pas, je m'en occupe. Ne reste pas sur ta chaise, ne viens pas aux réunions, manger, manger, écoutez. Un jour peut-être il y aura la persécution, on ne pourra plus écouter. Ce qu'il faut, c'est qu'on prenne chacun notre Bible, qu'on la médite, qu'on apprenne par cœur un verset et qu'on le répète à tous ceux qu'on croise, s'il le faut. Avec un verset, une parole, le Seigneur peut toucher un cœur. Comprenons que ce n'est pas nous qui travaillons avec nos forces, c'est le Seigneur qui travaille au travers de nous. Amen. Merci Seigneur encore pour cette soirée. Merci Seigneur pour la venue de Monsieur Aguila. Merci Seigneur pour la venue de Porte Ouverte. Tant de personnes sont persécutées, tant de frères, tant de sœurs. Et au-delà de la persécution, tant de personnes ne connaissent pas encore le beau message de l'Évangile. Oui Seigneur, aujourd'hui si quelqu'un entend ta voix, qu'il ne tarde pas, qu'il te donne son cœur, qu'il t'accepte comme sauveur et comme Seigneur, qu'il croit que tu as payé pour tous ses péchés, qu'on n'a plus à culpabiliser, à avoir peur de toi, on peut se présenter sans honte, avec l'assurance que nos péchés sont pardonnés, si on croit dans l'efficacité de la mort de Jésus à la croix et dans sa résurrection. Seigneur Jésus, tu es vivant aujourd'hui pour honorer ta parole, pour confirmer ta parole, et je te prie Seigneur, de toucher nos cœurs pour qu'à chacun puisse se lever, ne pas attendre un ministère particulier, mais comprendre que c'est nous les ouvriers, que chacun d'entre nous on doit se lever et aller dans la moisson avec nos petites forces, peut-être juste en priant Seigneur, s'il nous reste que la parole et que nos jambes nous manquent. Mais Seigneur, à chacun, tu nous demandes de nous rendre disponibles, de te servir, de t'obéir par la foi et de croire que toi tu feras ton œuvre, ce n'est pas la nôtre. C'est la tienne. Et ce soir, ce n'est pas la mienne, c'est la tienne. Touche les cœurs. Passe au-dessus de mes faiblesses, Seigneur. Je sais que tu vas le faire. Je te remercie parce que je n'ai pas compté sur moi, j'ai à compter sur toi, heureusement. Et je te prie, Seigneur, de remuer nos cœurs ce soir, de faire trembler nos cœurs comme la prison a tremblé pour que des chaînes tombent. Peut-être la timidité empêche quelqu'un d'avancer. Seigneur, tu fais tomber ces chaînes, s'il te plaît. Merci, Seigneur, de toucher ce cœur. Nos cœurs à chacun ce soir. Amen. Amen. Je voudrais vraiment, peut-être pendant qu'un dernier chant est pris, que chacun en réfléchisse et qu'on réponde à soi-même à Dieu. Je ne crois pas qu'il y a besoin d'intermédiaire. Le message de ce soir, c'est lève-toi toi. Si quelqu'un veut faire le point avec le Seigneur, qu'il le fasse dans son cœur. Peu importe s'il n'y a personne qui chante ou pas grand monde, l'important c'est qu'on profite de ces moments pour réagir devant Dieu. De dire, Seigneur, je veux réaliser encore que c'est moi que tu appelles à me lever pour aller dans la moisson. Ce n'est pas un ouvrier qualifié avec toutes sortes de capacités personnelles, mais simplement quelqu'un qui croit en toi. Apprends-moi à croire malgré tout, par la foi jusqu'au bout, malgré tout, Seigneur, je veux aller. Et que pendant ce chant, des gens puissent prendre des décisions pour le Seigneur. Dire, moi je vais me lever, moi je vais servir le Seigneur. Moi, je vais demander au Seigneur ce qu'il veut, parce que le monde a besoin de croire, le monde a besoin d'entendre, et Dieu va agir, je le crois.